rendez-vous de midi. Musique, littérature, débat d'idées. Rendez-vous de midi, une émission proposée par Thierry Fabre avec Elisabeth Sestor, une émission qui s'inscrit dans le travail éditorial de la revue La Pensée de Midi. Alors au sommaire de cette nouvelle émission, trois temps, musique de la musique turque avec Nil Deniz, un passage de la mer Noire à la mer Égée en passant par l'Anatolie, littérature avec Camus au programme et avec la sortie magistrale des deux derniers tomes aux éditions de la Pléiade, dans la collection de la Pléiade, et dans la partie débat d'idées, une rencontre avec l'historien de la Grande Guerre, Stéphane Audouin-Rousseau, rencontre qui s'est tenue à l'Institut politique d'Aix-en-Provence le lundi 24 novembre et qui ouvre d'ailleurs le nouveau numéro de La Pensée de Midi qui s'appelle « Désir de guerre, espoir de paix ». Alors pour commencer avec la partie musicale, donc un voyage dans la musique turque, en commençant je crois, Nil Deniz, par la mer Noire.
Oui, j'ai amené trois chansons avec moi pour vous amener à un petit voyage de la mer Noire vers la mer Égée. En passant par Eskişehir, dans le centre de la Turquie, c'est une ville en dessous d'Ankara. Donc, commençons avec une chanson traditionnelle de la mer Noire. C'est une chanson Laz, d'une minorité ou une communauté originaire de Caucase et de Géorgie. C'est une chanson qui est interprétée par la jeune chanteuse Seval Sam. Elle est aussi star de cinéma, avec Kazım Koyuncu, un rockstar et l'enfant rebelle de la mer Noire qui est mort à l'âge de 33 ans en 2005 d'un cancer. Donc ce Kazım Koyuncu était une figure emblématique du mouvement anticapitaliste en Turquie. Il était engagé politiquement pour les droits de l'homme. Les cinéphiles connaissent peut-être cette chanson déjà du film de l'autre côté de Fatih Akın, qui est devenu un hymne de la jeune génération en Turquie. Écoutons « Ben seni sevdiğimi, dünyalara bildirdim ». J'ai dit au monde que je t'ai aimé. Voilà, écoutons Kazım Koyuncu et Şevval Sam. Geçti bizden sevdalık, avcebundan saçları.
Yaz geldi, bahar geldi, ay açtı yeşil yapraklar. Ben sana doyamadım, doysun kara topraklar. Ben sana doyamadım, ben sana doyamadım. Doysun kara, doysun kara, doysun kara. toysun kara, toysun kara topraklar.
Un autre moment musical avec un groupe, je crois, qui vient de la ville de Eskişehir.
Oui, c'est un groupe qui s'appelle Gevende. Ce sont cinq jeunes musiciens qui ont créé ce groupe en 2000. Un peu difficile à classer leur musique. On peut le décrire un peu comme un psychedelic folk. Il y a toutes les influences de différents univers musicaux qu'on peut entendre, surtout aussi parce que le groupe a fait un voyage musical en 2006 en passant par l'Iran, l'Inde, Pakistan et Népal. Et c'est cet empirisme musical qu'on peut entendre dans leur album qui est sorti chez un label très très bien, Baykuş, en 2006. En passant par les rythmes balkaniques, turcs, jazzy. Ce qui est très intéressant avec ce groupe, c'est aussi qu'ils utilisent une langue imaginaire en imitant, en faisant des imitations phonétiques. On a l'impression qu'on comprend quelque chose, mais en fait, ça ressemble toujours à une langue qu'on a déjà une fois entendue, mais c'est un mélange. Donc, ils appellent ça la langue spontanée du monde. Alors, écoutons Çelik Çomak. C'est un jeu d'enfants de la rue de leur album Eve de 2006.
Beyler bayanlar, kaydıraktan kayanlar, sancakta sallananlar, kendini sallamayanlar ve kimseyi sallamayanlar. İhtiyacınız olan bir uzun, bir kısa iki tane sopa. Kısa olanı al, koy iki taşın arasına. Uzun olanı kaldıramaya, sonra vur uzağa. Çelik çomak başlıyor, hale! Hadi otur.
Et Gevende, passons à une nouvelle escale musicale sur les bords de la mer Égée, Nilénise.
Oui, continuons notre voyage vers Izmir, précisément, avec le groupe Kırka. Ce groupe de quatre musiciens s'inscrit dans l'âme de Dionysos pour retrouver la mer. Ils disent on a perdu la mer, enfin la relation à la mer. Donc leur musique est très influencée par les musiques populaires urbaines des grandes villes ottomanes comme Izmir, Istanbul et Thessaloniki. Nous retrouvons dans leur musique les airs de danse de Zeybek, les Repetiko, les Çiftetelli. Et on a l'atmosphère de la musique des bars et des bars à vin et des tavernes enfumées. C'est un groupe qui est quand même dans l'autodérision et reflète aussi un peu la tragique comique, comment on peut dire. Écoutons donc Kırka avec le morceau Hiçbir Tocu Sayım.
Sevdası bir nehir gibi durmadan dolaştı damarlarımda sürükledi o sevda eri beni içime sızlatan kaldırımlara eskiden düşürdüm evin içinde ısınmak lazım yorgan altında şimdi sokaklardayım unuttum üşümeyi sevgiyi de bıraktım sıcak odalarda. Toprakta kar var, hava çok kararmış, ıssız sokaklar. Heykel gibi sakin, uyumuş sayım. Elinde bir mektup, göğsünde resim. Heykel gibi sakin, uyumuş sayım.
Après ce voyage musical des rives de la mer Noire aux rives de la mer Égée, en passant par l'Anatolie, un autre moment littéraire méditerranéen avec la figure si chère à la revue La Pensée de Midi, qui est celle de Albert Camus. Albert Camus, dont on semble avoir tout dit, tout écrit, et au fond, quand on regarde l'actualité éditoriale, avec notamment la parution magistrale de ces deux volumes de la collection La Pléiade, des œuvres complètes, 3 et 4, qui recouvrent les années 49-56, et 56-59, puisque malheureusement Camus est mort dans un accident de voiture le 4 janvier 1960, eh bien on a là rassemblé des œuvres majeures de Camus, beaucoup de textes difficiles à trouver, d'inédits, d'éléments qui nous font découvrir finalement un autre visage de Camus, qui, je pense par exemple à La postérité du soleil, texte extrêmement difficile à trouver, qu'il avait conçu avec René Char, avec autour de la Provence et de leur rencontre l'un et l'autre. Et bien, grâce à ces volumes de la Pléiade, on a accès à ces textes de la postérité du soleil, on a accès au carnet d'Albert Camus, à ses notes, à ses variantes. On peut comprendre au fond ce que Camus recherchait. Et ce qui est frappant à feuilleter ces textes, à lire et à relire les œuvres de Camus, c'est au fond sa détermination à lutter contre le nihilisme. Pris dans ce conflit de l'histoire, cet grand mouvement contre lequel il a cherché à se dresser de l'historicisme, et qui lui a valu tant de critiques, tant d'avanie, tant de haine même dans les milieux intellectuels parisiens, eh bien Camus sort grandi quand on se plonge à nouveau dans ses textes. On mesure aussi l'ampleur de sa tristesse, parfois de son désespoir. Il suffit de relire La Chute ou des fragments de lettres qui lui sont donnés ici, d'échanges avec Maria Cazares en particulier, pour mesurer toute la difficulté et la tristesse dans laquelle Camus a été confronté. Mais c'est vrai que sa rencontre avec René Char au sortir de la guerre, puisqu'il a publié dans la collection qu'il dirigeait alors chez Gallimard, la collection L'Espoir, le texte extraordinaire, les fragments qui s'appellent les feuillets d'hypnose que René Char avait écrit au cours de la guerre. René Char, acteur singulier de la résistance en Provence. Eh bien, il y a une sorte de fraternité profonde entre Char et Camus qui a toujours quelque chose à nous dire aujourd'hui. Et c'est vrai que si il y a une belle idée d'un cadeau à faire, au fond, dans cette période de fin d'année, à des lecteurs, et surtout à des jeunes lecteurs, c'est de leur mettre entre les mains ces deux volumes de la Pléiade, car ça peut se lire par petits fragments. Il y a beaucoup de textes, des chroniques algériennes, des textes sur des éditoriaux qu'il a pu faire dans l'Express, des conférences qu'il a pu faire en Amérique latine ou ailleurs. On suit tout le parcours d'Albert Camus dans ces années décisives, et jusqu'à ce texte posthume qui s'appelle Le Premier Homme. Et donc, dans ces volumes de la Pléiade, on a tous les éléments, les fragments, puisque ce texte a été retrouvé dans la sacoche d'Albert Camus après l'accident. Catherine Camus, sa fille, a fini par décider de le publier. Et heureusement, car on a là une œuvre majeure. Camus était enfin en train de sortir, en écrivant Le Premier Homme, de sa mélancolie, de renouer avec la création littéraire. Il écrivait lui-même que son projet, c'était d'écrire son Guerre et Paix à partir de l'histoire algérienne, à partir de l'histoire de son père qu'il n'a pas connu, mort à la guerre de 14. Camus a écrit, même si c'est encore c'est un texte inachevé, Le Premier Homme, a écrit une œuvre tout à fait magistrale. Et je crois que dans cette édition de la Pléiade, on peut comprendre l'importance qui était pour Camus de ce livre qu'il maturait depuis de nombreuses années. On a tous les éléments de la genèse, de la constitution de ce texte. Vraiment, pour tous ceux qui aiment Camus, qui veulent faire découvrir Camus, il faut se plonger dans ces volumes de la Pléiade. Alors, Je terminerai par ce texte qui, là aussi, est dans ce volume, dans le recueil de Camus qui s'appelle « L'été », qui est un texte moi, qui m'avait beaucoup frappé, beaucoup marqué, qui est un texte de 1948, qui a d'ailleurs été publié pour la première fois dans la grande revue publiée à Marseille, « Les Cahiers du Sud », un numéro qui s'appelait « Permanence de la Grèce », un numéro spécial que Jean Ballard avait conçu. Et dans Camus a donné ce texte qu'il a ensuite repris dans ce recueil L'été, qui est un texte donc dédié à René Char, dans lequel on voit pour la première fois apparaître cette image, cette idée, cette intensité de la pensée de Midi. Alors l'ouverture de ce texte pour au fond terminer cette séquence littéraire avec ces éditions de la Pléiade, des deux derniers tomes des œuvres complètes d'Albert Camus. L'exil d'Hélène. La Méditerranée a son tragique solaire qui n'est pas celui des brumes. Certains soirs sur la mer, au pied des montagnes, la nuit tombe sur la courbe parfaite d'une petite baie, et des eaux silencieuses montent alors une plénitude angoissée. On peut comprendre en ces lieux que si les Grecs ont touché au désespoir, c'est toujours à travers la beauté et ce qu'elle a d'oppressant. Dans ce malheur doré, la tragédie culmine. Notre temps, au contraire, a nourri son désespoir dans la laideur et dans les convulsions. C'est pourquoi l'Europe serait ignoble si la douleur pouvait jamais l'être. Camus nous fait comprendre le tragique de l'histoire européenne et tente une fois encore de lutter contre le désespoir, contre le nihilisme, et il retrouve un élan dans la pensée de Midi, il retrouve un élan dans son rapport à l'imaginaire méditerranéen, il retrouve une force et un espoir dans sa relecture des textes grecs, et à partir de là, peut-être que Camus peut nous donner dans ce monde aujourd'hui si déboussolé un élan qui nous manque tant et dont nous avons tant besoin. Albert Camus, les œuvres complètes dans les éditions de la Pléiade. Troisième temps de cette émission autour de débat d'idées avec l'historien Stéphane Audouin-Rousseau. Stéphane Audouin-Rousseau qui est un des plus grands historiens de la Grande Guerre, de la guerre de 14-18, et qui vient récemment de publier un livre qui s'intitule « Combattre », dans lequel il raconte la façon dont le rapport à la guerre a été tenu à l'écart par les plus grands spécialistes des sciences humaines et sociales, et qui essaie de nous donner à comprendre ce que c'est que, à partir de l'expérience de la Grande Guerre, les désirs de guerre, les formes de guerre contemporaines et les discours de guerre tels qu'ils peuvent s'exprimer. Donc Stéphane Audouin-Rousseau, dans un entretien avec Thierry Fabre, à l'Institut d'études politiques d'Aix-en-Provence, le lundi 24 novembre, pour le troisième temps de cette émission au rendez-vous de Midi.
Puisque nous sommes réunis ce soir au mois de novembre, et donc pas très loin des cérémonies du 11 novembre, j'aimerais qu'au fond on commence par cette guerre de 14-18 que vous connaissez mieux que bien, et peut-être pour vous demander comment est-ce que vous expliquez ce retour dans l'espace public, dans la scène du débat public, de cette guerre de 14-18 qui, pendant longtemps, avait été occultée. Et là, on a vu des manifestations très importantes, des films, des documentaires. Je pense notamment à une soirée de France 2 avec un documentaire qui présentait des images colorisées, certes, mais assez époustouflantes, pour ma part, en tout cas, je n'avais jamais vu, et qui font prendre la mesure de la violence collective et peut-être de la matrice du XXe siècle, au moins pour l'Europe, que représente la guerre de 14-18. Stéphane Audouin-Rousseau.
Oui, ce retour de la Première Guerre mondiale, disons, date d'une vingtaine d'années. C'est une chose qui est très surprenante, très surprenante à peu près, oui. Mais il a été vraiment sensible, disons, dans les 10 dernières années, mais en réalité, quand on regarde bien avec le bénéfice d'une vision rétroactive, on se rend compte que la Grande Guerre est redevenue un sujet public et un sujet d'histoire publique aussi, un sujet de débat, un sujet de films, de romans,
controverses,
voilà, de controverses, de mobilisateurs d'affects très très puissants en France, dans une certaine mesure aussi au Royaume-Uni, en partie en Italie, pas du tout en Allemagne, on pourra en reparler. La Grande Guerre est revenue au premier plan, disons, ça coïncide à peu près avec à la fois la fin, disons, de l'Empire soviétique entre 89 et 91, et le retour de la guerre dans l'espace européen, dans l'espace balkanique en particulier, avec l'éclatement sanglant de l'ex-Yougoslavie, hein, entre, disons, dans la première moitié des années 90. Et donc, il y a là un contexte historique, je crois, très, très important.
Le retour de la guerre des Balkans était un élément, parce qu'il y a des grilles d'interprétation étaient d'ailleurs liées au conflit de 14-18.
D'abord oui, dans une certaine mesure oui. La Serbie, alliée de la France en 14-18, c'était très important, même si ça n'était pas dit de manière explicite, mais c'était très important dans la politique suivie par François Mitterrand, en particulier au début de la guerre. Et puis, au fond, la guerre revenait dans les Balkans, d'où elle était partie. C'est-à-dire Sarajevo, siège de Sarajevo, le mot de Sarajevo de nouveau prononcé, et puis cet effondrement du communisme à l'Est qui finalement permettait de faisait réapparaître la carte finalement de l'Europe centrale et orientale qui au fond issue très largement des traités dits de la banlieue parisienne, des traités de 1919 et 1920, et carte au fond qui est de nouveau bouger, de nouveau éclater. Donc je pense qu'il y a un contexte, et puis après tout, qu'est-ce que c'est que la fin du communisme à l'Est, sinon la fin de l'ultime conséquence politique de la Grande Guerre? Parce qu'on ne peut pas imaginer la révolution bolchevique et le tour qu'a pris la révolution bolchevique sans faire référence à la Grande Guerre et aux formes que la Grande Guerre a prises dans l'Empire russe avant son effondrement de 1917. Donc il y a eu en quelque sorte fin d'un siècle là. Fin d'un siècle et donc très logiquement retour à ses commencements, préoccupation de ses recommencements. Et l'autre aspect, je crois, de ce retour, c'est que moi j'ai observé en tant qu'historien du premier conflit mondial, c'est à quel point le deuil de la Grande Guerre n'était pas terminé, n'est toujours pas probablement dans une société comme la société française.
À cause de l'ampleur des destructions qui représentent, parce que c'est vrai que là, les images qu'on a pu voir montrent l'incroyable violence, au fond la démesure de la violence, avec parfois des dizaines de milliers de morts par jour. Donc c'est vrai qu'on a presque du mal à se représenter ce niveau de violence a pu être. Et c'est, je crois que là, sans doute la première fois dans l'histoire que l'on va si loin.
Oui, d'après les estimations que j'ai essayé de faire, c'est très difficile, mais je considère que les deux tiers de la société française à la fin du conflit sont touchés, les deux tiers des familles, les deux tiers des Français sont touchés par le deuil. Donc le deuil a été un deuil massif, souvent un deuil redoublé, c'est un deuil extraordinairement traumatique, c'est les jeunes qui meurent, ils meurent de manière violente, ils meurent sans qu'on puisse assister à leur mort, sans qu'on puisse effectuer les rituels de deuil, bref. Ce traumatisme a été d'autant plus profond qu'il a été occulté, je crois, par la commémoration. La commémoration dans laquelle nous sommes toujours.
Elle a fait écran.
C'est-à-dire que la commémoration était là pour dire aux familles, voilà, maintenant ça suffit. Maintenant ça suffit, éventuellement vous n'avez pas le corps de vos proches, mais il y a soldats inconnus, il y a des monuments morts partout. Opération cathartique, c'est terminé. Vous savez aussi bien que moi que quand on cherche à terminer un deuil avant qu'il soit terminé, c'est comme ça qu'on l'ancre de manière beaucoup plus profonde. Et je pense que le deuil de la Première Guerre mondiale n'est pas terminé, et donc comme tous les deuils non terminés, il est revenu à la troisième génération. Ce qui est frappant, et la troisième génération, c'est la mienne, c'est-à-dire celle dont les grands-parents ont fait la guerre, ou sont morts à la guerre. Et je crois que c'est la troisième génération d'historiens, de cinéastes, d'écrivains, etc., qui, au fond, a ramené la Première Guerre mondiale au premier plan de notre actualité, en quelque sorte. Donc je crois qu'il y a eu toute une combinaison de facteurs. La question maintenant, c'est de savoir quand est-ce que la Grande Guerre va mourir. Je veux dire par là, quand est-ce qu'elle va mourir en tant qu'événement vivant pour nous.
En tout cas, elle ne meurt pas avec la disparition des derniers témoins.
Non.
Puisque...
Non, c'est ça. Je crois que c'est une question qu'on m'a souvent posée. Est-ce que la disparition du dernier poilu, Lazare Ponticelli, l'année dernière, va faire que la Grande Guerre maintenant s'est terminée? Non. C'est autre chose qui fera que la Grande Guerre, un jour, va devenir un événement unique, intéressant uniquement quelques spécialistes étroits. Quand? Je ne sais pas.
Alors, on vous a interrogé, Stéphane Donnant-Rousseau, autour de ce numéro de la Pensée de Midi, désir de guerre, on y a rajouté espoir de paix, mais... La question première est bien celle de scruter ce désir de guerre, presque ce goût de la guerre. Est-ce qu'on peut dire que de ce point de vue-là, au moins pour l'Europe, il y a une centralité de la Grande Guerre, de la guerre de 14-18, et qu'à partir de là, la donne est changée dans le rapport à la violence de guerre, à la brutalisation, comme on a pu, on a pu l'écrire.
Oui, alors, je crois que ce serait trop simple de dire que c'est la Première Guerre mondiale qui aurait, au fond... changer hein, les paradigmes hein, de la guerre, de notre relation à la guerre, que la Grande Guerre aurait changé en quelque sorte à elle seule. La Grande Guerre a été un élément déterminant, mais lié hein, au Second Conflit mondial. Notre relation à la guerre, en Europe, chez les Occidentaux en particulier, mais particulièrement les Européens, a changé avec vraiment le double héritage des deux conflits mondiaux. Je crois qu'il faudrait... On s'en rend plus compte aujourd'hui, mais la guerre était une activité au XIXe siècle parfaitement licite et éventuellement parfaitement honorable. Il n'y avait rien d'anormal. Voilà pour un officier, par exemple, de souhaiter la guerre, de souhaiter entrer en campagne pour connaître le combat, pour évidemment éventuellement monter en grade. C'était parfaitement normal. À droite, à l'extrême droite de l'échiquier politique, hein, que la. La fameuse formule hein, du poète italien D'Annunzio, hein, le paradis est à l'ombre des épées. Hein, cette formule, donc extraordinairement provocatrice, nous paraît beaucoup plus provocatrice aujourd'hui qu'elle ne l'était à l'époque. Les milieux nationalistes hein, appelaient souvent la guerre de leurs vœux. C'était plutôt une rhétorique qu'une réalité, hein, mais cette rhétorique néanmoins
était très rédemption par la guerre.
Bien sûr. Hein, et dans les jeunesses en particulier européennes, bien, cette idée était très forte. Et si on se place disons, au moment de l'Ancien Régime, enfin, faut pas l'oublier, le roi de France est roi de guerre. Hein, vous avez un salon de la guerre hein, à Versailles. Donc tout ça, la guerre comme activité parfaitement licite, parfaitement honorable, hein, cette idée existait. Les deux guerres mondiales, c'est évidemment en raison de la mort de masse, de leur destruction massive, de leurs conséquences catastrophiques, hein, ont brisé au fond cette valorisation hein, de la guerre qui a été longtemps si prégnante. Et c'est les deux guerres ensemble. Alors pour la France, il est certain que c'est la Première Guerre mondiale hein, qui a joué un rôle capital, pour le Royaume-Uni aussi, mais la Deuxième Guerre mondiale hein, a vraiment ancré hein, donc le pacifisme au cœur hein, de nos sociétés, avec évidemment le projet européen hein, qui en est issu, etc. Donc toute la question que vous posez, c'est de savoir si ce pacifisme est profond, ou si, en fait, il est superficiel.
On va essayer, effectivement, chemin faisant, de scruter cette place de la guerre dans la dimension européenne, de ce trou noir que, d'une certaine façon, elle représente. Mais bon, revenons à un fil que vous tirez dans ce livre « Combattre ». Qui est au fond une anthropologie de la violence de guerre, une réflexion en profondeur sur un grand silence. Parce qu'on a l'impression qu'effectivement on a tout dit, tout écrit, tout raconté sur cette grande guerre de 14-18. Et ce que vous montrez, c'est qu'au fond, les sciences sociales ont été, et en tout cas les principaux artisans, il y a quelques figures que l'on va justement interroger avec vous, eh bien, il y a là un silence absolument retentissant sur le phénomène de combattre, c'est-à-dire d'avoir participé avec son corps à la guerre et d'en avoir tiré un certain nombre de leçons. Donc, d'abord sur l'impasse des sciences sociales sur l'interrogation sur la guerre, et puis après on prendra quelques exemples de figures de Norbert Elias, Marcel Mauss et d'autres, Bloch qui sans doute est plutôt une exception, Evans Pritchard, enfin des figures que vous interrogez dans ce livre majeur Combattre, pour essayer de comprendre justement ces sciences sociales qui justement normalement sont là pour éclairer le temps, essayer de penser, de donner un éclairage sur ces angles morts de la société, de voir que là, au contraire, il y a un phénomène d'occultation massive qui a eu lieu. Stéphane Odorozo.
Oui, c'est une chose qui m'a frappé au fur et à mesure que j'avançais dans ce travail. C'était, on le sait bien, la guerre a été une source d'inspiration pour les artistes, je parle de la Grande Guerre, mais dans une certaine mesure de la Seconde Guerre mondiale également, pour les artistes, pour les cinéastes, pour les écrivains. Et la Grande Guerre, de ce point de vue, n'a pas produit que des catastrophes, elle a produit aussi quelques très grandes œuvres qui appartiennent aujourd'hui vraiment au patrimoine artistique, littéraire de l'humanité. Très bien. Mais les sciences sociales. Bien, les sciences sociales ont été, j'appelle les sciences sociales l'anthropologie, l'histoire, la sociologie, éventuellement la philosophie politique, les sciences sociales ont été étonnamment silencieuses. Et alors, pour quelle raison? C'est d'autant plus curieux qu'un très grand, un nombre non négligeable, de très grands noms des sciences sociales occidentales, européennes en particulier, dans le premier XXe siècle, la première moitié du XXe siècle, eh bien, ont connu l'expérience de guerre et ont connu l'expérience de combat. Pour une raison extrêmement simple, c'est que la guerre totale mobilise totalement. Et donc, des hommes déjà pas très jeunes, plus très très jeunes, étant déjà formés à leur discipline, l'anthropologie, la sociologie, l'histoire, la philosophie politique, eh bien, se sont retrouvés avec un uniforme sur le dos, avec une arme, et ont dû rencontrer, littéralement, rencontrer la guerre, rencontrer le combat. Et on aurait pu attendre d'eux, je ne leur fais aucun reproche, bien entendu, mais dans un idéal des sciences sociales, on aurait pu attendre d'eux, mais à qu'ils tirent les leçons de l'expérience, qu'ils ramènent de cette expérience quelque chose dans le champ disciplinaire qui était le leur. S'ils l'avaient fait, eh bien, je pense que notre compréhension du fait guerrier aujourd'hui, du point de vue des sciences sociales, serait complètement transformée. Et alors qu'elle est, je pense, cette compréhension très en retard, par rapport à ce que des écrivains, des peintres, des romanciers, ou même des simples témoins ont pu voir, dire, sentir, comprendre. Les sciences sociales, malheureusement, je trouve, compte tenu des moyens qui étaient à leur disposition, sont restées très en deçà de l'effort qu'elles auraient pu faire.
Alors peut-être que avant de questionner ce silence ou cette dénégation, peut-être prenons quelques exemples. Nous sommes ici à l'Institut d'études politiques d'Aix. C'est bien de prendre des figures de la connaissance, donc quelques-unes. Par exemple, Norbert Elias, des pères de la sociologie, venu d'Allemagne, et qui a passé, je dirais, une bonne partie de sa vie à expliquer ce qu'il appelle le procès de civilisation, le processus de civilisation, la civilisation des mœurs, et donc, au fond, d'éviction, comment l'Europe a créé les conditions pour évacuer cette violence politique, cette violence de guerre, et arriver, au fond, à une sorte de modèle de civilisation. Jusqu'à, je ne sais pas si c'est un suicide collectif, mais en tout cas jusqu'à cette destruction massive qui caractérise le XXe siècle européen, deux guerres mondiales, l'invention des totalitarismes, les guerres coloniales, enfin un niveau de violence sans doute jamais atteint dans l'histoire. Et donc ce que vous montrez, c'est que lui qui va si loin dans l'analyse en profondeur très convaincante par certains côtés de ce processus de civilisation, eh bien, pas un mot, ou quasiment, sur son expérience de la guerre, sur son expérience de la violence politique, puisque c'est un juif allemand qui doit aussi s'exiler dans les années 30. Enfin, et donc, voilà. Comment expliquez-vous, par exemple, premier paradoxe, Norbert Elias, qui, en fait, nous raconte quelque chose de la civilisation européenne et qui occulte cet élément central qui est celui de son expérience de la Grande Guerre?
Oui, alors avec Norbert Elias, on commence tout de suite par un très très grand nom, effectivement, donc sociologue allemand dont l'influence donc sur les sciences sociales a été considérable, sur la sociologie, sur la philosophie politique jusqu'à aujourd'hui, c'est peut-être même dont l'influence sur les historiens français à partir des années 70, qui ont redécouvert, disons, le cœur de son œuvre, c'est-à-dire sur le procès de civilisation, qui est paru juste avant la Deuxième Guerre mondiale, l'influence sur les historiens français a été vraiment considérable. Donc, on est avec un très grand nom dont le poids dans les sciences sociales est énorme. Norbert Elias, bien d'abord, a été un volontaire de guerre. Ce qui est inouï, c'est que personne ne le sache généralement, parmi tous ceux qui ont écrit sur lui. Comme si c'était indifférent. Quand on est sorti du lycée, en Prusse orientale, en 1915, de s'engager volontairement avec ses camarades. Comme si ça n'avait pas d'importance. Vous sentez bien que ça a une importance évidemment capitale dans une biographie, et y compris dans une biographie intellectuelle. Or, Norbert Elias, visiblement, n'a pratiquement jamais rien dit de cette expérience, sauf dans une interview très tardive de 1984, où il est interrogé par deux jeunes chercheurs qui le poussent dans ses retranchements et qui l'interrogent sur l'expérience de guerre. Et on s'aperçoit que Norbert Elias ne se souvient pas. Enfin, il y a des morceaux entiers dont il ne se souvient pas, qui n'arrive pas à parler. On a l'impression vraiment qu'on le met vraiment devant un traumatisme qui a été son expérience du front. Un front qu'il a vécu d'abord à l'Est, dans une première partie de la guerre, et visiblement sur la Somme. D'après mes recoupements à la fin de l'année 16, c'est-à-dire un des pires moments de ce qu'était la bataille de matériel, la bataille de matériel telle que la Grande Guerre en a vu l'avènement. Donc une expérience de terreur vraiment indicible, tellement indicible que Norbert Elias n'en a rien dit. Et non seulement il n'en a rien dit, mais alors qu'il subit ensuite tous les drames du siècle, et qui sont toujours des drames guerriers ou liés à la guerre. La guerre civile larvée que connaît l'Allemagne de Weimar au début des années 20, la prise du pouvoir par les nazis et son exil en tant que jeune universitaire, d'abord en France, puis en Angleterre, où il vit de manière d'ailleurs miséreuse. Puis la Deuxième Guerre mondiale qu'il subit en Angleterre, il est enfermé en tant que... il a beau être juif allemand, il est d'abord allemand pour les Anglais, donc il est mis en camp. À l'île de Man, avant que des collègues arrivent à l'en sortir. Les bombardements de la deuxième guerre mondiale sur l'Angleterre. Quand il rentre à Londres en 45, il ne peut pas ne pas voir les conséquences de la guerre. Sa mère a été déportée à Auschwitz où elle a été assassinée. Donc voilà, tout son parcours individuel est un parcours où rien ne lui a été épargné des catastrophes du premier XXe siècle. Jamais il n'en parle. Jamais il n'en parle, et non seulement il n'en parle pas, mais c'est en 1939, au seuil de la Deuxième Guerre mondiale, alors qu'il n'est plus en Allemagne, mais en Angleterre, qu'il publie les deux volumes de son procès de civilisation, où finalement, notamment dans la conclusion, qui est rarement soulignée, Norbert Elias donne dans un véritable déni de la guerre, un déni de la guerre qui est là, sous ses yeux. Aucun Européen ne l'ignore, sauf lui.
Alors c'est quoi ? C'est une espèce d'idéalisme, c'est-à-dire c'est un refus de voir qu'on appelait le désir de guerre, le goût de la guerre, ce bouleversement qui a traversé la société européenne, qui lui fait écrire, au fond, de construire une mythologie, parce qu'en même temps, le processus de civilisation des mœurs, de la société de cour qu'il analyse, et ce qui a constitué aussi la réalité de la culture européenne, c'est-à-dire c'est l'incapacité d'accepter qu'au fond, cette société européenne est elle-même porteuse d'un immense pouvoir de destruction et d'autodestruction, et que, au fond, beaucoup d'intellectuels sont restés dans l'empire des idées et n'ont pas, alors qu'ils ont été confrontés à l'expérience de guerre et qui a marqué leur chair ou leur famille, se détachent de cette dimension-là. Est-ce que c'est quoi, une schizophrénie cette question historique est d'autant plus importante qu'elle a des résonances par rapport à aujourd'hui.
Ah oui, le problème c'est que les sciences sociales peuvent être capables de repérer un silence. Il est beaucoup plus difficile d'expliquer un silence. Donc, j'ai tendance à parler de déni, est-ce que c'est trop fort, donc avec une dimension, donc, vous voyez, presque analytique, en utilisant un vocabulaire presque analytique, je ne suis pas sûr que j'ai raison. Ce que je crois, c'est que Elias construit, au fond, une société qui n'existe pas. Ce qui est extraordinaire pour un sociologue.
C'est un théâtre.
Voilà, c'est un théâtre. Le procès de civilisation qui fonctionne assez bien pour l'époque moderne, effectivement, avec ce processus de civilisation des mœurs dont il parle, ce processus, justement, me paraît avoir été dramatiquement inversé au XXe siècle. C'est une des caractéristiques du XXe siècle, c'est de montrer que d'autres choses se jouaient parallèlement à côté ou contre ce qu'il appelait le procès de civilisation. Dans une interview assez tardive, Elias a un aveu que je trouve bouleversant. Il dit si, si j'avais eu le choix, si ça avait été possible, j'aurais aimé vivre dans une société où aucun conflit n'était possible, où le conflit entre êtres humains n'aurait pas existé. C'est-à-dire une société qui n'existe pas, ce qui est intéressant sur le plan sociologique. Mais on est vraiment dans la construction hein, d'un modèle qui nie la guerre dans les livres, mais qui évidemment échoue hein, à retracer, hein, si l'on peut dire, la réalité historique, politique, géopolitique de son temps.
Alors venant à une autre figure, pas sacrée, mais enfin, considérable dans le monde de la connaissance, je pense à l'ethnologue, l'anthropologue Marcel Mauss, qui a d'ailleurs été le maître de Germain Tillon. Mauss, apparemment, l'auteur de l'essai sur le don et de tant de choses importantes dans la pensée des sciences sociales au XXe siècle, là aussi, très peu de choses.
Presque rien. Oui, Mauss,
il a été mobilisé.
Mauss est mobilisé. Alors, Mauss est déjà un homme de premier plan, si l'on peut dire, hein, dans les sciences sociales, le neveu de Durkheim, un des piliers de l'année sociologique, hein, un des fondateurs de la sociologie française et aussi, dans une certaine mesure, hein, de l'anthropologie. Les deux disciplines ne se sont pas encore complètement autonomisées hein, à l'époque dont je parle. Et Marcel Mauss donc, est mobilisé, donc c'est un homme mûr depuis 35 ans, et qui donc, devient interprète auprès de divisions anglaises puis australiennes. Donc c'est pas un combattant des premières lignes, mais c'est un combattant qui a connu effectivement donc, le danger de la guerre dans plusieurs occasions. Ce qui est très intéressant avec Mauss, enfin, Mauss était un homme peu inhibé. Hein, avec une capacité de dire des choses qu'on ne pouvait pas dire à son époque, notamment sur la sexualité, par exemple, hein, sur le corps, hein, tout à fait étonnante. Il parlait dans ses conférences, dans ses articles, de ses expériences corporelles, personnelles, avec une liberté de ton étonnante. Ça reste frappant aujourd'hui quand on le lit. Eh bien, il y a un endroit où il s'arrête, c'est sur la guerre. Il y a quelques notations, d'ailleurs extrêmement fines, hein, sur la guerre, sur le corps, sur les outils. Par exemple, quand Mauss dit... Quand Mauss essaie de faire réfléchir son lecteur hein, dans les techniques du corps, un fameux article de 1934 sur le problème des outils. Il vous dit les outils forment les gestes. Hein, quand une division française sur le front devait relever une division anglaise, il fallait changer 8000 pelles. Parce que les Français étaient incapables de se servir des pelles qu'utilisaient les Anglais, et les Anglais étaient incapables de s'utiliser des pelles. Il fallait changer les pelles. On ne pouvait pas les conserver en l'état. Des notations extraordinairement fines hein, de ce genre, de même sur la marche, sur la fatigue, sur la capacité à dormir, sur les phénomènes d'épuisement, mais sur le combat, rien, absolument rien. Mauss se tait absolument. Il a tout dit sur la Grande Guerre, aussi sur le deuil, sur la perte de ses camarades hein, ou ses amis de l'année sociologique, mais sur l'expérience du combat, sur l'expérience de la terreur, sur l'expérience du bombardement, etc., qu'il avait tout à fait bien connu, eh bien, il s'est tué. Alors que c'était sans doute le dernier, un de ceux dont on aurait pu espérer qu'il dise quelque chose.
Au fond, ce silence-là, ce silence retentissant, est peut-être une façon aussi de questionner ce désir de guerre ou ce goût de la guerre. Alors, vous dites qu'effectivement, quand on s'occupe de ce genre de choses, ça a un côté obscène. Vous pouvez nous en dire un peu plus, Stéphane Gonzo?
Ah oui, c'est une expérience d'enseignant. Ma manière de regarder la guerre, j'aime regarder la guerre non pas d'en haut mais d'en bas. C'est-à-dire, non pas d'un point de vue géopolitique, non pas d'un point de vue clausewitzien, si vous voulez, ou aronien, mais j'essaie d'étudier la guerre par en bas, c'est-à-dire au ras du sol, par les pratiques, par les gestuels, par les représentations des acteurs sociaux.
C'est en ce sens-là, d'ailleurs, que vous croisez pas mal le travail des anthropologues.
Oui, bien sûr. Des anthropologues m'aident à le faire et j'ai recours à eux pour pouvoir le faire dans toute la mesure du possible. Et donc, si vous faites cela, vous avez la guerre dans son obscénité. L'extrême violence des pratiques, ce que j'appelle les pratiques de cruauté, la torture, le découpage des corps, l'animalisation de l'adversaire, etc., etc. Ces choses qu'on ne veut pas voir, généralement, hein, dans le fait guerrier, et que une lecture en surplomb permet précisément de ne pas voir.
Alors qu'elles sont là massives.
Massives, massives dans tous les conflits. massive dans tous les conflits, ce que les Américains ont fait aux Japonais dans la guerre du Pacifique, une chose qui surprend beaucoup, qui surprendrait beaucoup la plupart des historiens s'ils le savaient.
Arrêtons-nous quand même sur quelques exemples, parce qu'il y a une espèce de pudeur qui fait que n'en parle pas, ou seuls certains écrivains transgressent cette dimension-là, mais on reviendra sur le rapport à la littérature et sur le récit de guerre. Justement, quelques exemples. Vous parlez du fameux livre de Christopher Browning sur des hommes ordinaires, vous parlez du massacre de Milaï. J'aimerais avoir deux, trois exemples, pas pour justement faire un étalage de cette obscène, de cette violence, mais quand même de ce que les hommes en situation de guerre sont capables de faire.
Écoutez, j'en parle généralement avec réticence. Pourquoi ? Parce que l'obscène, obscenus en latin, ça veut dire de mauvais présage. Donc l'obscénité des pratiques de guerre, notamment celles qui visent le corps de l'ennemi, sont obscènes en ceci qu'elles annoncent quelque chose qu'on ne doit pas annoncer. Et donc, et celui qui parle de ce genre de pratiques est toujours rabattu du côté de l'annonce. Si je vous parle des pratiques de guerre dans ce qu'elles ont de plus violent, de plus cruel, vous pouvez toujours me soupçonner de prendre plaisir à le faire et d'annoncer ces pratiques.
Et c'est pour ça que nous, on a osé de mettre en titre « Désir de guerre » de façon aussi un peu
obscène. C'est provocant, oui, oui.
Pour nous tirer un peu plus vers le contemporain, j'ai le sentiment que on est arrivé aujourd'hui à une vision comme si la guerre était impossible, en tout cas pour des Européens. C'est vrai qu'en Europe, nous sommes la seule génération qui, depuis 60 ans, je parle de l'Union Européenne, moi, n'a pas connu la guerre. J'ai l'impression aussi dans votre livre, et dans ce travail, dans ce qu'on a cherché à faire dans ce numéro, une volonté de dire « attention ». C'est pas parce qu'on l'a pas connue qu'elle ne pourrait pas à nouveau advenir. Et que si on pouvait tirer un certain nombre de leçons, je sais pas, en tout cas d'expériences, de regards, de questions, pour essayer de comprendre les mécanismes qui sont en jeu de propagation de la violence, ça irait très bien. Donc, quelques éléments sur le contemporain, avant de parler sur d'autres aspects, j'aimerais revenir notamment sur l'animalisation.
D'accord. Il y a toute une série de questions dans votre question. Je fais un petit peu en arrière pour dire, vous parlez d'un extrême de violence. Personnellement, je préfère parler de pratiques de cruauté. Et j'appelle pratiques de cruauté des formes de violence de guerre qui sont un au-delà de la violence, c'est-à-dire qui vont au-delà de la nécessité, entre guillemets, en temps de guerre, neutraliser l'ennemi et donc de le blesser ou de le tuer. Mais les pratiques dont je parle sont ce que j'appelle les pratiques de cruauté, c'est-à-dire des pratiques qui sont censées infliger une douleur particulière à l'adversaire, quand l'adversaire est mort, mais une douleur au sens, une douleur à ses camarades, une douleur à ceux qui découvriront le cadavre.
Notamment le viol des femmes.
Voilà, le viol des femmes en est une, bien sûr. Ces pratiques de cruauté sont toujours généralement une atteinte à la filiation. Le viol de guerre est une pratique de cruauté, c'est évident, puisqu'elle coupe la filiation. C'est pas pour rien que les viols de guerre ont si souvent lieu, les mères devant leurs enfants, les filles devant leurs parents, etc., etc. Il s'agit de couper la filiation de la plus brutale qui soit. Et ces pratiques de cruauté, elles infligent donc une douleur spécifique, physique, morale, mais aussi un plaisir au bourreau, qui en tire une satisfaction. Ce qui me frappe, c'est à quel point dans nos sociétés pacifiées, plutôt que pacifiques, à quel point la réitération de ces pratiques de cruauté par des armées occidentales en particulier, nous sidère toujours. Sidération devant la découverte d'Abu Ghraib.
Nous sommes les tenants de la civilisation.
Bien sûr.
De la civilisation.
Lorsque, regardez, en 2003, quand on a découvert, aux États-Unis d'abord, puis dans le reste du monde, donc ces pratiques de cruauté qui étaient celles d'Abu Ghraib, qui sont la torture est fondamentalement une pratique de cruauté à mon avis, ça a été la stupeur. Quand on apprend que les dérapages de tel groupe de soldats américains en Irak, etc., vous voyez, et de nouveau stupeur. Stupeur. Comment une telle barbarie est-elle possible, etc. Comment c'est...
Même stupeur à propos des troupes coloniales françaises en Algérie.
Bien entendu, on est toujours dans la réitération de la stupeur devant le déploiement de pratiques de cruauté qui brise nos propres normes de la guerre qui implique toute une série de choses vis-à-vis de l'adversaire. Et donc, il me paraîtrait intéressant d'un point de vue civique, hein, et pas seulement d'un point de vue de historien, que ces pratiques de cruauté, que leur possibilité, leur éventualité, soit toujours à notre horizon d'attente. Hein, et que dans le cadre d'armée...
Ça, ça peut advenir.
Absolument. J'ai déjà dit à Saint-Cyr, d'ailleurs, dans des cours qui laissent un peu l'auditoire assez glacé dans ces cas, voilà. Il faut enseigner les pratiques de cruauté et leur logique profonde, la logique profonde de leur mise en œuvre aux officiers et aux élèves officiers pour qu'ils sachent qu'elles peuvent advenir et de quelle manière, du coup, on peut les prévenir. C'est un peu idéaliste de cette manière, mais mon ennemi principal.
C'est les armes de la connaissance que l'on peut déployer.
Mon ennemi principal dans ce livre, c'est l'inconscience. Et je crois beaucoup à la profonde inconscience occidentale, à la méconnaissance et à l'inconscience occidentale devant, et donc j'en viens à votre question, cette question de la guerre impossible ou de la guerre propre si elle est possible. Qu'est-ce qui est une des grands mythes apparus effectivement au début des années 90, qui a maintenant évidemment beaucoup de plomb dans l'aile, mais qui reste très, très agissant. Au fond, il me semble que les Européens en particulier vivent maintenant, croient réaliser maintenant l'imaginaire qui était celui des soldats de la Grande Guerre en 1918, la Derdeder. Ça y est, maintenant, eux, ils l'ont pas eu, mais nous, on l'a. C'est-à-dire, l'idée d'être confronté à un phénomène guerrier qui engagerait vraiment nos sociétés en profondeur. Et encore plus dans le cadre européen, nous paraît un horizon d'attente absolument inenvisageable.
C'est vrai que j'ai du mal à penser aujourd'hui un nouveau conflit franco-allemand pourrait advenir.
Exactement.
Mais n'en reste pas moins que, à travers ces pratiques de cruauté ou cette interrogation de la guerre historique, ça nous interroge beaucoup sur le contemporain et donc sur ce désir de guerre à travers ce numéro, on essaie de regarder de part et d'autre de la Méditerranée, c'est-à-dire avec les discours qu'on a à l'esprit des mouvements djihadistes, comme l'a montré Mohamed Tozzi, avec ce phénomène de du récit d'aventure des actes qui conduisent à des actes terroristes. Mais inversement, assez mise en scène de la violence dans le discours. Je pense par exemple à ce qui a été dit sur l'article sur l'Italie et à des discours d'Oriana Fallaci en passant par le ministre Calderoli qui justement conduisent à traiter les Arabes, les musulmans ou les Africains de singes. Donc ce phénomène de l'animalisation. Donc on a l'impression qu'effectivement on n'a rien appris ni rien oublié et qu'il y a une récurrence et qu'aujourd'hui il y a à nouveau un goût de la guerre. Non pas intra-européen, mais qui se joue aux frontières de l'Europe, et notamment dans cette confrontation, dans cette dynamique qui est en train de se mettre en place, au moins dans les discours, je dirais dans la relation entre l'Europe et l'Islam.
Rendez-vous de midi, musique, littérature, débat d'idées. Au rendez-vous de midi, une émission proposée par Thierry Fabre avec Elisabeth Sestor, une émission qui s'inscrit dans le travail éditorial de la revue La Pensée de Midi. Pour cette émission du mois de décembre, trois temps, tant musique autour de la musique turque avec Nil Deniz et une promenade de la mer Noire à la mer Égée en passant par l'Anatolie. Un rendez-vous littéraire autour de Camus et de l'édition nouvelle des œuvres complètes de la Pléiade qui viennent de sortir et qui donne un aperçu magistral sur l'œuvre de Camus. Et enfin, un entretien avec l'historien Stéphane Odo-Arbouzeau autour des questions de la guerre. Au rendez-vous de midi, on vous souhaite une bonne fin d'année et vous donne rendez-vous l'année prochaine.